voix nue. Cette semaine, Belindola rencontre Jean-Paul Cluzel. Ce soir, les années de formation ou l'ascenseur républicain. Bonsoir Jean-Paul Cluzel.
Bonsoir Belindola.
Hier soir, dans un premier épisode de votre A voix nue, nous avons évoqué vos années d'enfance, une enfance modeste, une enfance plutôt heureuse, pendant laquelle vous découvrez votre don pour les études. Ce soir, nous allons donc parler de vos années de formation, de propédeutique. Vous choisissez de rentrer à Sciences Po Paris parce que la politique vous passionne, elle vous intéresse depuis votre tendre enfance. Et vous arrivez donc rue Saint-Guillaume dans un univers très différent de ce que vous avez connu précédemment. Et le choc social est rude.
Alors, je voudrais peut-être expliquer comment j'apprends qu'il existe Sciences Po. Je crois que je vous ai dit hier que j'aimais beaucoup parler politique avec mes parents et avec les amis de mes parents. Et une amie de mes parents, Fernand Dusson, un jour m'entendant lors d'un repas de Noël parler de politique avec tellement de passion, me dit mais Jean-Paul, il faudrait que vous fassiez l'ENA. Je lui dis qu'est-ce que c'est l'ENA ? Elle me dit, écoutez, c'est là où l'on forme nos ambassadeurs, nos préfets. Les préfets, je suis pas sûr que ça me disait quelque chose. Mais en revanche, les ambassadeurs, je voyais assez bien quelqu'un qui représentait notre pays à l'étranger. Et vous ne me croirez peut-être pas, mais le lundi suivant, je regarde dans l'annuaire téléphonique, je trouve l'École nationale d'administration. J'appelle le numéro, je tombe sur ce qu'était le standard, mais est-ce que je savais même ce qu'était un standard? J'en suis pas certain. Et je dis à la dame qui me répond, comment entre-t-on à l'École nationale d'administration? Je devais avoir 14, 15 ans. Et là, la dame, très gentiment, me dit, oh monsieur, je crois que vous êtes encore un peu jeune pour cela. Mais je dis, mais comment passe-t-on le concours? Elle me dit, généralement, on prépare l'ENA à Sciences Po. C'est donc par une amie de mes parents que j'ai connu l'existence de Sciences Po et par une standardiste.
Qui vous a guidé.
Voilà. Alors, et quand vous voyez tout ça, ce que je me dis souvent, c'est de la chance. Hein, et je ne suis pas sûr que de tels concours de circonstances heureuses puissent exister pour un jeune de banlieue aujourd'hui.
Vous ça, étiez assez décidé quand même. Vous prenez votre téléphone.
Oui, c'est ça, parce que je me suis dit, c'est que je ne voyais pas tous les obstacles. Comme j'étais bon élève, il était normal que je puisse être ambassadeur. Voilà comment je raisonnais. Je n'avais pas du tout une idée des obstacles. Et c'est effectivement quand je suis entré à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, où là, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de fils de quincaillier, que j'ai senti qu'il y avait une immense différence sociale et que le fait que son père ait une jolie voiture ne changeait rien aux relations sociales.
Le fait d'être premier élève ne suffisait
plus. Et le fils d'être bon élève ne changeait pas non plus. Les deux choses ne changeaient rien. Avoir, non pas beaucoup d'argent, mais ne pas être pauvre, avoir une jolie voiture et avoir les meilleures notes, ça changeait rien. Parce que j'ai tout de suite eu de très bonnes notes à Sciences Po. Oui.
Alors vous racontez cette anecdote qui est assez tendre en même temps, aussi tendre qu'elle est cruelle. C'est ce cours d'anglais au cours duquel la prof énumère les classes sociales et vous attendez la vôtre et elle ne vient pas et elle ne vient pas et elle ne vient pas et finalement elle est en bas quasiment.
Alors ça c'est avant Sciences Po, c'était à Lavoisier. Notre professeur d'anglais, qu'on appelait Miss Drouilly, qui était une femme formidable, qui nous organisait des échanges avec des familles, et on recevait les jeunes anglais chez nous. Enfin, vraiment, c'était de vrais échanges. Elle a organisé pour nous dès la classe de cinquième. Bon. Donc, Miss Drouilly, un jour, elle essayait d'aller au-delà de l'apprentissage de l'anglais et elle nous avait appris le système de classe sociale classique victorien anglais. Effectivement, elle commence à l'upper class, et puis elle descendait. Tout là. Et les petits commerçants n'arrivaient toujours pas. Et je me souviens, je crois, arrivant probablement au upper middle class, Miss Drouilly se tourne vers moi et me dit, Cluzel, vous voyez, il n'y a toujours pas les petits commerçants. Bon, Mais j'étais carapassonné pour tout ça. Et, si vous êtes dans un coin de ma tête, j'avais dû comprendre grâce à ça que, voilà, j'étais pas né de la cuisse de Jupiter, mais ça m'a pas handicapé. En revanche, à Sciences Po, le fait qu'en dehors du travail professionnel ou collectif qu'on pouvait être amené à faire, je n'ai jamais été invité chez mes camarades, à l'exception de deux personnes. Je n'ai jamais, pendant ces 3 ans à Sciences Po, été invité une seule fois, au moins chez la centaine d'autres étudiants que j'ai été amené à connaître d'une manière ou d'une autre, pas une seule fois.
Vous n'étiez pas au fait ni au surboom?
Non, non, jamais, jamais. Et je savais qu'il y en avait, puisque le lundi, ils en parlaient de leur fête. Donc ça m'a été assez pénible. Mais bon, j'ai survécu.
Vous dites que les filles, surtout, étaient cruelles avec vous.
Elles étaient cruelles parce qu'elles parlaient beaucoup de ces fêtes. Et puis, elles avaient une manière de parler qui marquait bien la différence. Par exemple, l'une d'entre elles, je crois qu'elle s'appelait Laurence, ça me revient comme ça, il y a ce café bien connu de la rue Saint-Guillaume qui s'appelle le Bizu. Et elle s'adressait au type qui servait, un des serveurs, et elle disait « Ah, Roger, faites-moi votre petit chocolat qui est si délicieux. » Et moi, je n'imaginais pas qu'on puisse parler comme ça à un serveur de café. Le serveur de café, c'était le serveur de café, le client, c'était le client. Mais qu'elle entre dans cette espèce de séduction avec cet homme, je voyais bien que c'était un truc de classe, que si moi j'avais fait, on m'aurait traité de pédé, évidemment. Donc, voilà, ils avaient des privilèges. Ils pouvaient traiter faussement les autres comme des égaux, alors que je pense qu'ils ne pensaient pas du tout qu'ils étaient des égaux.
Aujourd'hui, Sciences Po a bien changé, a ouvert son spectre social. Donc, ce que vous racontez là, c'était un milieu grand bourgeois?
Je pense que c'était plutôt grand bourgeois.
À quoi ressemblait cette jeunesse à laquelle vous n'aviez pas accès? L'habillement était différent?
Tout le monde, par rapport, puisque j'ai la chance, l'honneur de donner des cours aujourd'hui à Sciences Po, aujourd'hui tout le monde est habillé très décontracté. À l'époque, il y avait, oui, une sorte de tenue. Il me semble que tous les garçons étaient en costume cravate, ou en tout cas en veste, un complet veston, je suppose. Oh. Et les filles étaient en robe ou en jupe. Il y avait un vestiaire, c'est-à-dire que on arrivait avec nos manteaux ou nos imperméables, on donnait le manteau et l'imperméable au vestiaire, et on se promenait habillé relativement élégamment. Mais c'est pas ça qui faisait la distinction. La distinction, c'était ce qui se passait en dehors de Sciences Po. Encore une fois, il y avait ceux qui allaient dans les fêtes, dans les surbooms. Je pense que c'est là que j'ai appris le terme de rallye. Vous savez, les rallyes, ce qui peut se passer entre des familles d'une certaine aristocratie ou bourgeoisie, qui permet aux jeunes de se rencontrer, éventuellement de trouver l'élu du cœur avec qui fonder une famille. Voilà, je n'étais pas choisi, j'étais pas possible pour les rallyes, même si j'avais de très bonnes notes.
À l'époque, vous commencez à questionner et à déconstruire ce qu'on a pu vous apprendre, notamment sur la politique, dans votre famille, dans votre milieu. C'est à ce moment-là que vous prenez conscience du poujadisme de votre père, par exemple, et de votre propre avis à vous?
Bon, j'avais bien pris conscience du fait que ce que papa pensait en politique n'était pas admissible. Il suffisait d'écouter la télévision. La télévision, surtout à cette époque-là, je ne dirais pas était tous ordres, mais enfin, elle reflétait une certaine voie politique qui était quelque chose compris entre Le Monde et Le Figaro de l'époque, et à partir du général de Gaulle, très gaulliste, évidemment. Donc bien sûr, les opinions de papa n'étaient pas les bonnes, donc ça j'avais compris. Et puis arrivé à Sciences Po, je n'ai jamais fait état avec mes camarades de ce qui pouvait être pensé politiquement dans ma famille. J'ai très vite compris que j'aurais été, ridicule.
Mais vous, Jean-Paul Cluzel, vous en étiez où idéologiquement?
J'avais tellement de choses à apprendre, de tous égards. de ce que c'était qu'un rallye, comprendre ce qu'était l'administration, puisque je suis entré à Sciences Po sans savoir ce qu'était vraiment qu'un fonctionnaire. Pour moi, un fonctionnaire, c'était l'inspecteur des impôts, c'était le sergent de police. Je ne savais pas, à vrai dire, ce qu'était un ambassadeur, un préfet, ni un chef de bureau, un directeur d'administration. Je n'avais aucune idée. Donc, j'avais tellement de choses à apprendre que, disons, à acquérir une pensée politique faisait partie de tout ça. Et ensuite, j'ai eu la chance, ça c'était le point très positif de l'exécution de papa, qui n'était pas que poujadiste, j'avais été élevé dans l'idée de la réconciliation européenne et réconciliation franco-allemande, et il se trouve que beaucoup des professeurs de Sciences Po étaient de très fervents partisans de ce qui était à l'époque, non pas l'Union européenne, mais la Communauté économique européenne. Et donc, j'ai vite appris le credo de la construction européenne qui me plaisait à tous égards. Comme en plus, tout ça s'identifiait avec un courant politique qui était en Europe celui de la démocratie chrétienne, qui en France, à l'époque, c'était le MRP, qui, lors de l'élection présidentielle de 75, à laquelle évidemment j'ai pas participé, mais où Jean Le Canuet était celui qui a mis en ballottage le général de Gaulle, bah, tout ça m'allait bien. J'ai appris ensuite l'opinion politique modérée, comme j'ai appris le droit constitutionnel ou la langue anglaise.
À Sciences Po, vous rencontrez deux professeurs qui vont forger votre esprit, qui sont Gérard Vincent, qui était professeur en méthode d'histoire, et Bertrand Labrusse. Eux étaient un peu comme vous, contre cette morale bourgeoise ambiante, et ils étaient assez élitistes.
Eux, d'abord, je pense, appartenaient tout à fait à bourgeoisie. Bertrand Labrusse, s'appelait pas d'ailleurs Bertrand Labrusse, mais c'était Bertrand Labrusse de quelque chose, et il avait enlevé le de quelque chose pour être, je dirais, non pas aristocrate, mais intellectuel. Et Gérard Vincent était une sorte d'héritier des hussards de la République, mais niveau enseignement supérieur, héritier de ces universitaires de gauche, qui dominaient, comme ils dominent sans doute encore aujourd'hui, l'université française. Donc, je pense que par définition, voyant quelqu'un qui ne venait pas justement de cette bourgeoisie, ils avaient de la sympathie pour lui. Donc, ils m'ont aidé, mais...
Comment vous ont-ils aidé ?
En me donnant confiance. C'est-à-dire que eux, contrairement à mes petits camarades de classe qui négligeaient complètement mes bons résultats, eux, ils m'ont fait comprendre que j'avais une chance de parvenir là où je voulais parvenir, que j'avais une vraie chance de
d'aller à l'ENA.
D'aller à l'ENA et donc ensuite de faire une carrière de fonctionnaire. Et puis, si vous voulez, comme j'avais besoin de tout apprendre, ils aimaient bien enseigner par paradoxe. Ils pouvaient d'ailleurs se tromper, mais ces paradoxes nous prenaient tous, et moi en particulier, qui étais si orthodoxe, et ils nous prenaient à rebousse-poil. Par exemple, Gérard Vincent, un jour, nous avait dit « Qu'y a-t-il de plus important entre le Concile Vatican II ou le Club Méditerranée ?» Alors, vous doutez bien, de là, que ce qui est important, c'était le Club Méditerranée, parce que ça mélangeait toutes les classes sociales dans le « See, Sex and Son », tandis que le Vatican II parlait de choses complètement démodées et sans intérêt, comme le célibat des prêtres. On voit qu'aujourd'hui, le Club Méditerranée était racheté par les Chinois, et hélas, pour l'Église catholique, le célibat des prêtres est toujours en débat. Donc, leurs analyses n'étaient pas toujours parfaites. Ou Labrusse, il voulait nous enseigner que la vraie vie n'était pas forcément dans nos études, dans notre travail. Et il avait une très jolie voiture pour l'époque. Il avait une Austin Ilette 3000. Alors, ceux qui savent parmi
vous... Vous aimez les voitures, non, Jean-Paul?
J'adore les voitures. Une Austin Ilette 3000, c'était une splendide voiture de sport anglaise avec un 6 cylindres en ligne de 3 litres. Et il nous disait que C'est très facile de voyager en Europe. Vous voyez, par exemple, moi, le week-end dernier, bon, j'étais avec ma femme, on a été à Venise. Et il était parti en conduisant sur nos routes, parce qu'il n'y avait pas d'autoroute à l'époque, jusqu'à Venise et revenu, voilà. Alors évidemment, on se moquait un peu, parce que comme il garait le Stinilet 3000 juste devant Sciences Po, on voyait bien que tout le monde n'avait pas une Stinilet 3000, mais voilà, ça donnait une légèreté à tout, donc...
Qui vous allégeait, vous ?
Ben oui, ça, moi ça m'ouvrait.
Votre
ça
devoir.
M'ouvrait, ça m'ouvrait, voilà, c'est ça. Ça me montrait qu'il y avait quelque chose dans la vie en dehors de ce qu'on m'enseignait.
Et ça, vous l'avez gardé tout au long de votre vie, puisque je sais que vous n'aimez pas les gens qui ne font que travailler, qui n'ont que cela dans la vie.
Ça m'a, oui. Ça a prolongé, si vous voulez, l'ouverture que m'avait donnée Jacqueline Gainsbourg, dont j'ai oublié de dire que pour ma première communion...
Vous nous avez parlé hier soir.
Oui, Jacqueline, dont on a parlé, la sœur de Serge. Pour ma première communion, Jacqueline m'avait offert le premier 33 tours de son frère et c'était dédicacé pour Jean-Paul Cluzel, pour sa première communion, quelques chansons morales. Parce qu'effectivement, dans ce 33 tours, il y avait une chanson qui s'appelait « Les femmes des uns sous le corps des autres ». Ce qui m'a... était à peu près le seul élément d'éducation sexuelle que j'ai eu jusqu'à un âge assez avancé.
Vous rencontrez également un personnage qui aura une importance réelle dans votre parcours, qui s'appelle Léo Hamon, qui est un gaulliste de gauche. Et Léo Hamon vous offrira la possibilité d'obtenir une bourse pour aller étudier aux États-Unis après Sciences Po. Vous obtiendrez ces faveurs, d'une certaine façon, grâce à votre connaissance un peu approximative de la gastronomie ashkénaze, si
oui,
je ne m'abuse.
Oui, parce que Léo Hamon, donc on est en 1967, donc je termine mes études à Sciences Po, et en 1967, il y avait eu la guerre des six jours, au cours duquel le général de Gaulle avait privé Israël de la livraison des pièces de rechange, d'origine française, hein, pour l'armement d'Israël. Donc évidemment, ça avait créé plus qu'un froid entre la France et Israël. Et donc, le général avait demandé à Léo Hamon, qui était lui-même un intellectuel juif français, d'aller aux États-Unis faire, j'allais dire, la tournée des popotes, enfin des grandes universités, là où il y avait des enseignants juifs qui pouvaient être importants. Et donc, il se trouve que il était allé à l'université de Chicago, où il y avait pas mal d'intellectuels juifs qui enseignaient, dont l'un qui est devenu mon professeur, Morton Kaplan, mais il y avait aussi Friedman.
Milton Friedman, l'économiste.
Voilà, l'économiste, Samuel Morgenthau, enfin, il y avait vraiment une pléiade de très grands intellectuels qui tous avaient dû quitter l'Allemagne entre les deux guerres. Et... Donc j'ai eu ensuite la chance... de pouvoir recevoir les enseignements de ces hommes très remarquables. Et Léo Hamon était revenu de l'université de Chicago avec une bourse. Il fallait donc attribuer cette bourse. Et Henri Gréard, qui était le secrétaire général de Sciences Po, me reçoit à la fin de mes études parce que j'avais que 20 ans et je me sentais un petit peu jeune pour présenter l'ENA. Je voyais bien que je n'avais pas encore tous les codes, tout ce qu'il fallait. Et il me dit, mais si, présentez-les. Et au moment de me raccompagner, il me dit, mais au fond, ça vous intéresserait d'aller aux États-Unis? Je dis, oh, évidemment. Et là, il me dit que la bourse avait été attribuée, mais à une élève qui n'avait pas réussi son examen final. Mais pour cela, il fallait que je passe un autre examen, qui était un entretien avec Léo Hamon. Je voyais bien que... il était normal que la bourse dans l'esprit des donateurs de Chicago soit attribuée à un élève, un étudiant de confession juive. C'était pas mon cas, mais je voyais que Léo Hamon, en même temps, il avait très envie de me l'attribuer. Alors, j'ai pensé que si je lui parlais un peu, effectivement, des plages kenas que je connaissais par l'intermédiaire d'un ami de papa, je lui montrerai que j'étais à même de pouvoir parler aux généreux donateurs et d'être pas complètement étranger à la civilisation de la Mittel-Europa dans laquelle ils étaient tellement ancrés. Et il m'a donné la bourse.
Et c'est ainsi que vous avez quitté vos parents, la France.
Oui, la France, et que j'ai passé une année très exceptionnelle.
Et que gardez-vous de cette expérience, à part un bon niveau d'anglais ?
Là encore, je dirais hélas, le goût de l'effort, parce que en master à Chicago, les séminaires étaient extrêmement petits. Je veux dire, le nombre d'étudiants. J'étais dans le département de sciences politiques et généralement, le professeur animait des groupes de 5 à 10 élèves maximum. Et c'était sur le principe de la reading list, c'est-à-dire que vous deviez lire 300 à 400 pages, comme je crois qu'il y avait 4 cours par trimestre. Vous voyez ce que ça représente. Donc, ça m'a convaincu que la manière de faire les choses bien, c'était de beaucoup travailler. Postérieurement, c'était l'année de l'assassinat de Martin Luther King. Il se trouve que le South Side, là, le quartier, s'est révolté, on a été isolé, donc j'ai vu ce que c'était que les problèmes de la diversité quand ils sont pas résolus. C'était en même temps le début des hippies, peace and love.
Vous observez cela à distance ?
Oui, parce que, encore une fois, j'étudiais à fond. En plus, je voulais présenter Léna à l'automne, donc j'avais mes 400 pages à lire dans la semaine, les cours par correspondance pour préparer Léna. Voilà, mais simplement, quand vous voyez, quand vous êtes isolé, que de l'autre côté, on fait brûler les voitures, et que Simon & Garfunkel viennent sur le campus, oui.
Vous aimiez Simon & Garfunkel ?
Je les ai aimés après. Sur le moment, je suis allé les voir parce que je crois que c'est l'année où ils ont fait, pour je ne sais plus quel film...
Le lauréat ?
Le lauréat, voilà. La fameuse chanson Mrs. Robinson. Je pense qu'on devait être pas très nombreux dans la salle. La salle n'était pas immense.
Donc vous rentrez de Chicago, vous préparez l'ENA, vous passez l'ENA et vous êtes premier.
Oui.
Et vous rentrez à la maison et je crois que votre père vous dit une chose assez étrange.
Ce qui s'est passé, d'abord moi, je savais que je devais vraisemblablement être admis. Mais la manière dont les résultats ont été annoncés, c'est que quelqu'un est arrivé sur le perron de l'ENA et a lu la liste des admis. Et quand la liste s'est arrêtée, j'avais pas entendu mon nom. Donc je me tourne à côté de ma copain et il me dit « Mais imbécile, t'es le major !» J'avais été dit en premier. Mais je m'attendais si peu à être dit en premier que j'avais pas fait attention. Et mon père, ça devait être l'inverse, parce que quand je suis arrivé à la maison, je lui dis que j'étais premier, il m'a dit « Oui, bah c'est normal. » Voilà. Donc, oui, moi, j'avais pas entendu mon nom parce que, encore une fois, j'étais toujours au Kremlin-Bicêtre, comme je le suis encore d'une certaine manière. Mais pour papa, c'était normal. J'étais son fils et sans doute, c'était pas la revanche qu'il aurait aimé pour moi parce que être gratte-papier fonctionnaire n'était sans doute pas la profession qu'il aurait rêvé.
Mon père n'aimait pas les fonctionnaires.
Il aimait pas les fonctionnaires. Vous savez, les petits commerçants à l'époque, eux et le fisc, comme il disait, c'était pas le grand amour. Je suis pas sûr que ça soit encore aujourd'hui grand amour, mais c'était pire.
Mais vous n'avez pas eu de dispute, il ne vous a pas découragé de le faire.
Ah non, mais mes parents voyaient beaucoup trop nettement que le monde économique était en train de changer. Ils le voyaient dans la concurrence accrue. C'est à ce moment-là que Darty, tout ça, ont commencé à exister. Donc mes parents, qui vendent l'électroménager... voyez bien que je ne pouvais pas continuer dans leur métier, donc il fallait bien que j'en ai un autre. Et de la même manière qu'ils trouvaient absurde sans doute que j'ai fait du latin et du grec, mais c'était pas leur problème, ils avaient confiance en moi.
Alors à l'ENA, vous faites l'expérience de nouveau du travail et du labeur, et puis vous rencontrez des personnes qui vont devenir vos amis et qui sont aujourd'hui encore des amis très proches. Trois hommes connus, Alain Juppé, vous êtes le parrain de l'un de ses enfants, Louis Gallois, qui entre autres a dirigé la SNCF et EADS, et Jérôme Clément qui, entre autres, a co-créé la chaîne Arte. Que vous reste-t-il de ces amitiés-là ? Et pourquoi perdure-t-elle ?
Ce qui était intéressant, c'est que Alain Juppé, Louis Gallois, Jean Clément, nous n'avions pas les mêmes idées politiques. Il y avait Alain Juppé, qui était gaulliste, moi qui étais centriste. Je pense que Gallois était peut-être PSU à l'époque, et Jean Clément devait être socialiste. Donc ça nous faisait des thèmes de discussion.
Vous discutiez politique.
On discutait à l'époque essentiellement politique. Alors avec Alain, cette amitié s'est renforcée, parce qu'en plus Alain s'était marié très jeune, et j'ai connu sa mère, son père, sa sœur, moi qui étais fils unique, en fait c'était aussi une espèce d'autre famille.
Vous veniez du même milieu social ?
Oui, ses parents n'étaient pas commerçants, enfin, ses parents étaient agriculteurs, donc là aussi, c'était un pur produit de l'ascenseur républicain. Avec Alain, les discussions n'étaient pas politiques. En plus, moi, j'étais plutôt centriste, enfin, lui était gaulliste, bon. Mais on avait beaucoup de choses en commun, l'amour du cinéma d'auteur, et en particulier Visconti. Tandis qu'avec Louis Gallois, ou avec Jérôme Clément, c'était plutôt de politique qu'on discutait.
Et aujourd'hui, vous vous retrouvez tous les quatre.
Et aujourd'hui, nous
avons... Et vous parlez de politique.
Oui, nous avons, entre autres, un dîner annuel où la politique est ce qu'il y a de plus important. Donc finalement, on a rejoint nos amours d'antan.
Alors, votre chemin de vie et votre carrière, Jean-Paul Cluzel, sont jalonnés par des rencontres marquantes, par des amitiés. Beaucoup d'hommes dans ce parcours. Dernière question avant de nous quitter ce soir. Pour qui, Jean-Paul Cluzel, avez-vous été ou êtes-vous aussi une rencontre marquante ?
Vous voulez dire dans le plan professionnel ou amical ?
Les deux, puisque tout se mélange.
Alors, celle qui est exactement les deux, c'est Brigitte Lefebvre, qui a été pendant presque 25 ans, elle n'aimerait pas que je dise ça, mais c'est tout de même la vérité, la directrice du ballet de l'Opéra de Paris, et dont elle a fait une des plus belles, sinon la plus belle compagnie au monde. Elle a été ma témoin lorsque j'ai épousé Nicolas Drouin, et nous ne passons pas de mois sans nous voir, et faire un tour d'horizon approfondi de tout, de la politique, de la culture, de nos vies personnelles. Oui, c'est probablement la seule personne avec Nicolas qui sache à peu près tout de moi.
Merci Jean-Paul Cluzel. À demain. Demain, nous évoquerons votre carrière et ses 25 ans passés à la tête de grandes institutions culturelles. Bonne soirée sur France Culture. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Belindola avec Jean-Paul Cluzel. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Arthur Dumont, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.